Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon cher grand-père, cher père, chers amis, permettez-moi tout d'abord, cher monsieur l'abbé Leroux, si absent, de vous remercier. Le père abbé, le père Luc et moi-même, nous sommes très touchés de cette invitation à l'occasion de ce week-end, ce dimanche de l'Étarré. C'est pour nous en effet une grande joie de pouvoir être parmi vous au sein de cette fraternité Saint-Pierre, mais aussi parmi vous, chers amis. D'autant plus que ça nous permet de faire un petit pèlerinage en ce 800e anniversaire du baptême de Saint-Louis de Poissy, et de pouvoir venir dans ces lieux où il fut baptisé. Chers amis, comme vous le savez, le thème des conférences de carême de cette année est précisément centré sur Saint-Louis. Nous avons choisi comme thème pour la conférence de ce soir Saint-Louis et Saint-Benoît, deux modèles pour ce carême. Le plan que je vous propose est simple. Première partie, Saint-Louis et Saint-Benoît. Deuxième partie, deux modèles pour le carême. Première partie, donc, pour ceux qui prennent des notes, ce n'est pas obligé, mais enfin, c'est une idée. Première partie, donc, Saint-Louis et Saint-Benoît. Le lien entre Saint-Louis et les ordres mendiants est bien connu. Saint-Louis avait 7 ans quand Saint-Dominique est mort, et il avait 12 ans quand Saint-François est décédé. Il était donc contemporain de ces deux grands saints. Dès son enfance, sa mère, l'ange de Castille, va lui faire fréquenter les dominicains. Tous les matins, elle l'emmène à pied au couvent de Saint-Jacques, à Paris. Plus tard, quand il sera roi, il sera tellement fasciné par ces ordres nouveaux qu'on l'appellera le roi mendiant. Il se liera d'amitié avec saint Thomas d'Aquin, ça je pense que vous le savez. Il invitera même à table à prendre son repas avec lui. Son confesseur, frère Geoffroy de Beaulieu, est un frère très cher. Franciscains et dominicains seront également à ses côtés lors de ces deux croisades. En bref, Saint-Louis avait un lien profond et fréquent avec les fils de Saint-Dominique et de Saint-François. Mais quel lien avait-il avec les fils de Saint-Benoît? Saint-Louis avait également un lien étroit avec l'ordre monastique, tout spécialement avec les cisterciens. Les cisterciens avaient été fondés par Saint Bernard au siècle précédent. Au sacre de Saint-Louis, on comptait pas moins de 595 monastères cisterciens, sans compte donc compter les monastères bénédictins. Des fondations cisterciennes, il y en avait partout en Europe, jusqu'en Syrie. En exécution des dernières volontés de son père, Saint-Louis décida de construire une grande abbaye cistercienne, l'abbaye Mont-Royal, que vous connaissez, je pense, l'abbaye de Royaume. Il participa lui-même avec ses frères de sang à la construction de cette abbaye. Il devra même rappeler quelquefois à ses frères qu'il doit travailler en silence. Cette abbaye existe toujours à l'époque nord de Paris. Elle est magnifique, vous pouvez la visiter, je vous y invite. Malheureusement, l'abbatiale a été détruite. Saint-Louis aime profondément cette abbaye du royaume. Il l'appellera mon abbaye. Il y fera de fréquents séjours, il participe intégralement à la vie des moines. Il avait une petite cellule près de l'abbatiale pour pouvoir aller à Matine. Il se confessait dans la petite sacristie que l'on voit encore. Et son confesseur lui donnait là, après la confession, la discipline. Il assistait, assis par terre, avec les autres moines, aux conférences du Père Abbé. Il avait sa place à l'affectoire, à la table du Père Abbé, et quelquefois, il faisait le service des moines lui-même. Comme saint Benoît, saint Louis avait un grand souci des frères malades. À chaque fois qu'il passait dans l'abbaye, il avait soin de visiter les frères malades. Il avait une sollicitude toute particulière pour un frère qu'il aimait beaucoup, qui était gravement malade, qui était lépreux. Et voici comment un de ses biographes relate une de ses visites. En l'abbaye du royaume, il y avait un moine qui avait nom Léger, était diacre en langue, qui était lépreux. Il était dans une maison séparée des autres, qui était si misérable et si répugnant que par la grande maladie, ses yeux étaient si corrompus qu'il ne voyait plus. Il avait perdu le nez, et ses lèvres étaient fendues et grosses, et les ouvertures des yeux étaient rouges et hideuses à voir. Et comme le béni roi était venu un jour de dimanche, il prit l'abbé du royaume et dit qu'il voulait aller au lieu où le dit lépreux demeurait, qu'il avait vu autrefois et le voulait visiter. Ensuite, l'abbé alla devant et le béni roi alla après et entra dans le lieu où le malade était. Ils le trouvèrent mangeant à une table très courte et mangeaient chair de porc, car ainsi est la coutume des lépreux qu'ils mangent chair. Et le saint roi salua le malade et lui demanda comment il allait. Il s'agenouilla devant lui et il commença à couper à genoux et coupa devant lui d'un couteau qu'il trouva sur la table du dit malade. Et après qu'il eut coupé la chair par morceaux, il mettait ses morceaux dans la bouche du malade et celui-ci les recevait de la main du béni roi et les mangeait. Et à la fin, quand le saint roi fut ainsi à genoux devant le dit lépreux, et le dit abbé aussi à genoux, par révérence pour le saint roi, de laquelle chose pourtant le dit abbé avait très horreur. Remarquons, chers amis, qu'il est piquant de voir ainsi l'abbé du royaume, ne pouvant faire autrement que de se mettre à genoux comme le roi, lequel lui donne une belle leçon d'humilité et de charité, lui apprenant, comme saint Benoît, à révéler le Christ dans ses membres souffrants. Saint Louis a donc très bien connu la vie monastique. Il l'a beaucoup aimée. Faute de ne pouvoir devenir moine lui-même, car sa femme le dissuada, il pratiquait autant que possible la vie monastique dans son palais. Il se levait à minuit avec ses chapelains pour chanter matines. Du moins, tant que sa santé lui permettra. Il disait tous les offices, pas uniquement les lettres comme vous, ce qui est déjà pas mal, on dirait, mais prime, tierce, sexe, nonne, vêtre et conclue. Je vous rappelle qu'il était roi quand même. Il assistait à une messe quand cela n'était pas plusieurs par jour. Évidemment, certains trouvaient que c'était excessif, mais le roi répondit que s'il avait utilisé tout ce temps pour aller à la chasse, personne ne lui aurait fait de reproche. Assurément, saint Louis était tout imprégné de l'esprit de saint Benoît. Voyons donc maintenant en quoi ces deux grands saints peuvent être le modèle en ces temps du carême. Ce sera notre deuxième partie. Deux modèles pour ce carême. Mais qu'est-ce que le carême, au juste? Si vous ouvrez le nouveau missel du baron, qui se trouve au fond de l'église, à la page 170, vous avez la définition du carême. Le carême, c'est la préparation de tous les fidèles à Pâques. Aussi, afin de bien nous préparer à Pâques, posons-nous deux questions essentielles. Comment et pourquoi? Comment cette Pâque, ce passage de la mort à la résurrection du Christ, s'est effectué? Pourquoi le Christ a-t-il voulu souffrir la passion et ressusciter le troisième? Tâchons d'abord de répondre à la première question. Comment le Christ a-t-il opéré sa Pâque? Dans la liturgie des jours saints, il y a une antienne, une phrase, qui revient sans cesse et qui est très touchante, très frappante aussi. Christus factus est pro nobis, obedientes usque ad mortem. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Voilà la réponse à notre question. Le Christ a opéré sa part, notre rédemption, par obéissance. Oui, notre Seigneur, le Verbe incarné, Dieu par nature, nous a sauvés en obéissant à son Père. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, disait-il. Quelle leçon pour nous, chers saints. Cette leçon, Saint Benoît et Saint Louis l'avaient parfaitement comprise. C'est pourquoi ils sont nos modèles en ce carême. Tout d'abord, l'obéissance de Saint Benoît. Récemment, un père abbé cistercien est venu nous prêcher la retraite annuelle. Et il faut reconnaître qu'il a su remarquablement bien montrer que précisément le fil conducteur, l'essentiel de la règle Saint-Benoît, réside dans cette obéissance. En effet, c'est par l'obéissance que nous pouvons retourner à Dieu, nous qui sommes des enfants de la désobéissance, de par nos premiers parents, Adam et Ève. Écoute, mon fils, les préceptes du Maître, nous dit Saint Benoît dans son prologue, et mets-les en pratique, afin de retourner par l'exercice de l'obéissance à celui dont t'avais éloigné la lâcheté de la désobéissance. Oui, c'est une grâce immense que d'avoir l'obéissance religieuse. Même si ce n'est pas toujours très facile. Car elle nous permet d'imiter notre Seigneur dans son obéissance à son Père et pouvoir ainsi aller à lui. Mais pour vous, chers amis, comment imiter notre Seigneur dans son obéissance et retourner à Dieu, vous qui n'êtes pas malade? Eh bien, c'est là que Saint Louis est une aide précieuse. Car il faut savoir que si Saint Louis a été canonisé, ce n'est pas uniquement en raison de ses nombreux miracles après sa mort, pas moins de 77 tout de même, mais surtout en tant que roi. Autrement dit, il fut canonisé essentiellement en tant que saint laïc, ayant parfaitement accompli son devoir d'État, qui était de gouverner la France. C'est en cela, chers amis, que Saint Louis peut et doit être votre modèle. Car tous, vous avez un devoir d'État à accomplir, n'est-ce pas? Mais, même s'il ne consiste pas, j'allais dire, par encore, à gouverner la France. Rappelez-vous que l'on ne s'en sanctifie pas malgré son devoir d'État, mais dans son devoir d'État. C'est précisément l'argument que la reine Marguerite utilisa pour convaincre son époux, Saint Louis, de ne pas entrer au cloître et de continuer à gouverner son royaume. Car c'était là que le bon Dieu voulait qu'il se sanctifie, même s'il est vrai que la vie monastique est en soi plus sainte que la vie politique. Alors, chers amis, posez-vous la question en ce milieu de carême. Où en suis-je dans l'accomplissement de mon devoir d'État? Mais là, j'attire votre attention. Qu'est-ce que le devoir d'État? Eh bien, ce n'est pas seulement votre travail scolaire, professionnel ou ménager. Car nous avons plusieurs devoirs d'État. N'est-ce pas un État que d'être chrétien? N'est-ce pas un État que d'être père ou mère de famille? N'est-ce pas un état que d'être fils ou fille? Je suis sûr que vous pourrez en trouver bien d'autres de voir l'état. Vous voyez qu'il y a de quoi se sanctifier, car il faut poursuivre notre Seigneur dans son obéissance, parfois héroïque, être obéissant à la volonté divine dans chacun de nos devoirs d'État. Le premier message que nous délivre donc Saint Benoît et Saint Louis, c'est d'être des saints. Des saints là où Dieu nous a placés. Des saints par notre obéissance quotidienne et généreuse à nos différents devoirs d'État. Après avoir vu comment le Christ a opéré sa Pâque par obéissance, tâchons maintenant de répondre à notre deuxième question sur le carême. Pourquoi cette Pâque? Pourquoi le Christ a-t-il voulu souffrir sa passion et ressusciter le troisième jour? C'est encore cette antienne des jours saints qui va nous donner la réponse. Christus factus est pronomus obedient usque mortel. Le Christ s'est fait obéissant pour nous jusqu'à la mort. Oui, c'est pour nous que le Christ est mort d'une façon si cruelle et qu'il est ressuscité d'une façon si glorieuse. C'est donc pour le salut de chacune de nos âmes qu'il a opéré sa Pâque. Quoi de plus important, en effet, chers amis, que le salut des âmes? Salut de notre propre âme, bien sûr, mais aussi le salut des âmes de tous ceux qui nous entourent. Saint Benoît et Saint Louis l'avaient parfaitement compris. C'est pourquoi, là encore, ils peuvent être le modèle pour ce carême. Le salut des âmes chez Saint Benoît. Dans sa rêve, au chapitre sur le Père Abbé, Saint Benoît révèle clairement que le but de la vie monastique est précisément le salut des âmes. Avant tout, dit-il, que le Père Abbé se garde de négliger ou de compter pour peu le salut des âmes qui lui sont commises, donnant plus de soin aux choses passagères, terrestres et caduques. Qu'il pense sans cesse que ce sont des âmes qu'il a reçues à conduire et qu'il devra en rendre compte. Cependant, chers amis, ne croyez pas que le Père Abbé et les moines ne sont entrés au monastère que pour penser au salut de leur propre âme. Non, la vie monastique n'est pas un refuge où l'on ne travaille que pour le salut de sa propre âme. La vocation monastique comporte en elle-même une dimension apostolique. Soit par un certain apostolat direct, comme aujourd'hui par la prédication, soit surtout par un apostolat caché et silencieux. Mais me direz-vous, comment cet apostolat caché et silencieux peut-il se faire? Eh bien, pour répondre à cette question, je prendrai une image bien simple, celle d'une bataille terrestre. Car au regard de la foi, la vie sur terre est finalement une grande bataille, avec deux armées en présence, celle du Christ et celle de Satan. Chacune d'elles a ses troupes. Le Christ dispose de myriades d'anges, mais aussi de ses hommes d'église, et une multitude de fidèles. Satan, quant à lui, dispose d'une légion de démons, d'hommes aussi, de ses suppôts, et aussi, ne l'oublions pas, des satanistes, dont le nombre est de plus en plus impressionnant. Or, vous savez certainement, du moins vous messieurs, en particulier ceux qui sont engagés dans l'armée, que toute armée de terre est composée d'une artillerie avec ses canons, d'une cavalerie avec ses chars et d'une infanterie avec ses hommes à pied. L'artillerie est toujours en retrait et cachée, alors que la vocation de la cavalerie et de l'infanterie est d'aller au contact direct de l'ennemi. Je pense que vous avez dominé, mes frères, où je veux en venir. La pierrie, eh bien, ce sont les moines, les contemplatifs, qui sont en retrait, derrière leur clôture. On ne les voit pas, mais ils n'empêchent que par leur prière et leur sacrifice, eh bien, ils envoient de véritables bombes qui font de gros dégâts parmi les nés. On nous racontait que lors d'un exorcisme, le démon disait « Je hais la prière des moines ». La cavalerie infantile, ce sont les évêques, les prêtres et les fidèles qui, eux, sont sur le terrain et travaillent à l'évangélisation directe des hommes. En bref, chacun a son rôle à jouer. Il y a une complémentarité indispensable pour remporter la bataille. Saint Louis faisait partie sans aucun doute de cette cavalerie et de cette infanterie. Une cavalerie et infanterie magnifique qui s'élança par deux fois en terre sainte pour délivrer les lieux saints. Lors de la première croisade, il y eut un épisode saisissant qui fit ressortir combien Saint Louis avait avant tout le souci des âmes pendant les croisades. Cet épisode est celui de l'arbre aux perles. Philippe de Villiers, dans son fameux roman de Saint Louis, nous relate cette entrevue entre Saint Louis, fait prisonnier, et l'arbre aux perles. L'arbre aux perles est la sultane d'Égypte, une femme superbe, sublime, qui est une ancienne esclave égyptienne, arménienne. Cette femme était très impressionnée par la sagesse, la prestance, mais surtout la sainteté du Saint. Elle vient tout simplement lui proposer d'être sultan d'Égypte. Cherchant à toucher le cœur de ce roi très chrétien, elle lui tient un discours écuménique avant la croix. Nous avons un Dieu unique, la naissance virginale de Christ, la vénération pour la Vierge, etc. etc. Mais Saint Louis va à l'essentiel. Qui est Jésus-Christ pour vous? Et elle de répondre, un prophète. Voilà le problème. Voilà l'obstacle essentiel qui fera que l'islam ne sera jamais conciliable avec le christianisme. Car notre Seigneur n'est pas un prophète, mais le Fils de Dieu, le Verbe incarné. Et c'est ce que Saint Louis va dire clairement à cette sultane. Assurément, ce dialogue est passionnant et complètement d'actualité. Mais ce qui est également fort intéressant, et c'est là où je vous mets en venir, c'est le tout début de l'entretien. L'arbre aux perles, voyant ce bruit triste, il était prisonnier, ne l'oublions pas, elle lui demanda la raison de sa tristesse. Saint Louis lui fit alors cette réponse. Oui, je le sais. Je n'ai pas conquis ce que je désirais le plus. La chose pour laquelle j'avais choisi de quitter mon doux royaume et ma chère mère, qui crie après moi. C'est pourquoi je m'étais exposé à tous les périls de la mer et de la guerre. Et qu'est-ce donc, Seigneur roi, que cette chose t'en désirait? Demande l'âme au Père. Votre âme, madame, ainsi que celle de votre peuple. Voilà, ce qui tient le plus au cœur de Saint-Louis, c'est le salut des âmes. Et en l'occurrence, celle des Mahométans, des musulmans. Un autre exemple nous le montrera. On s'est longtemps demandé pourquoi Saint-Louis avait choisi Tunis pour sa seconde croisade. Eh bien, on a découvert récemment qu'il avait choisi Tunis parce qu'il avait un message de son sultan, Mohamed Mostansev, lui disant « Je voudrais être chrétien. » Et devant ses chevaliers incrédules et qui pouffaient de rire, il dit « Nous allons à Tunis parce que nous allons retrouver l'Afrique de Saint-Augustin. Ils vont se faire chrétiens. » Et nous, chers amis, Avons-nous le souci des âmes? Avons-nous vraiment le souci du salut des personnes? Est-ce que concrètement, nous travaillons à cela? Non pas comme cela nous chante, ne nous dérange pas, mais comme une priorité. Est-ce que nous avons le courage de parler de Dieu, de la Vierge, des anges, des saints de l'Église à ceux qui nous entourent? Par exemple, aux personnes de notre famille. On peut parler de Dieu aux personnes de notre famille. À nos amis, on peut parler de choses profondes à nos amis. À nos voisins aussi, on n'est pas obligé de leur dire simplement bonjour. On peut leur parler de Dieu. À nos collègues de travail, là aussi on peut être missionnaire. Ils sont aussi une âme, nos collègues, nos camarades de classe, nos partenaires de tennis ou de bridge. Est-ce que nous avons simplement le courage de dire que nous sommes catholiques? Est-ce que nous avons au moins le souci de nous comporter en chrétiens dans nos différentes activités afin de n'être pas des glorieux témoignages? Notre Seigneur, Saint Benoît et Saint-Louis avaient eux ce souci et ce courage. Ils n'ont pas hésité à payer de leur personne pour le salut des âmes. Et d'ailleurs, sans eux, nous serions bien mal aujourd'hui. Il faut l'avouer. Aussi, le second message que nous délivrent Saint Benoît et Saint Louis ce soir, c'est d'être des apôtres, d'avoir le souci des âmes, de leur salut, non pas comme une option, mais comme une nécessité de notre vocation de chrétien. Voilà donc, chers amis, en quoi Saint Benoît et Saint Louis peuvent être nos modèles en cette carrière. Voilà comment ils peuvent nous aider à être préparés à Pâques. En nous faisant tout d'abord réaliser que c'est par une humble et généreuse obéissance à notre devoir d'État que nous pouvons imiter notre Seigneur dans sa Pâque, autrement dit, nous unir à sa passion et à sa résurrection. Et puis, en nous faisant également réaliser que l'apostolat auprès de ceux qui nous entourent fait aussi partie de notre devoir d'État. Car notre devoir d'État de chrétien ne peut avoir d'autre finalité que celle de notre Seigneur, à savoir le salut des âmes. Enfin, pour terminer, car il est temps, écoutons une dernière fois Saint Louis nous donner la clé de la réussite de son programme pascal. Beau fils, écrivait-il à son fils Philippe, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mets ton cœur à aimer Dieu. Car sans cela, nul ne peut être sauvé. Et à sa fille Isabelle, il précisait, chère fille, la mesure par laquelle nous devons aimer Dieu, c'est de l'aimer sans maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.